It's climate change. Because if it goes higher or lower, whatever the hell happens, there's climate change. It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion.
Le réchauffement climatique est la plus grosse arnaque jamais menée. Ces mots ont été prononcés le 23 septembre 2025 à l'Assemblée générale des Nations Unies par nul autre que Donald Trump, 47e président des États-Unis et par conséquent l'un des hommes les plus influents du monde. J'écoute ce discours dans mon salon, les volets fermés et un éventail à la main. Dehors, le thermomètre dépasse les 30 degrés. Et ce genre de température, il y en a depuis le mois de mai. Il fait chaud, trop chaud, et ce n'est pas moi qui le dis, mais les climatologues du monde entier. Depuis des années, ils et elles tirent la sonnette d'alarme sur le réchauffement climatique. Ses effets sont de plus en plus visibles, de plus en plus nuisibles, et il n'y a aucun doute, l'activité humaine en est la cause. Et pourtant, à l'image de Donald Trump, tout le monde est loin d'être convaincu. Sur les réseaux sociaux, notamment, il y a ces commentaires avec cette idée qui tourne en boucle. Les scientifiques nous mentent. Selon ces discours, donc, le réchauffement climatique n'existerait pas, ne serait que le fruit d'une invention, d'une manipulation orchestrée par les gouvernements pour des raisons obscures. Ces propos n'ont rien de nouveau, ils s'inscrivent dans ce qu'on peut appeler le climato-complotisme, l'une des nombreuses formes de complotisme qui s'attaque à la science. Vous en connaissez certainement d'autres, parmi les plus célèbres il y a le platisme, cette croyance selon laquelle la Terre serait plate, ou encore le complotisme anti-vaccin. Le problème, c'est que, comme on l'a vu, ces récits controversés ne circulent pas uniquement dans les recoins les plus obscurs d'Internet, on les entend sur certains plateaux de télévision ou dans la bouche de personnalités politiques de premier plan. En Suisse, on estime d'ailleurs qu'environ une personne sur trois adhère à au moins une croyance complotiste, et loin de l'image caricaturale du complotiste isolé dans une chambre sombre, ces personnes forment aujourd'hui de véritables communautés. Alors comment ces récits, parfois farfelus, parviennent-ils à convaincre autant de monde? Quels sont les mécanismes qui entrent en jeu pour semer le doute? Dans cet épisode, je vous propose de plonger dans la fabrique des complots anti-sciences. Nous allons décrypter les stratégies argumentatives qui sont utilisées pour remettre en cause des connaissances scientifiques établies depuis des décennies, voire des siècles. Car, comme nous le verrons, ces discours ne sont pas sans conséquences. Quand les complotistes attaquent la science, un épisode de l'Uniscope, le podcast du magazine du campus de l'Université de Lausanne. Commençons peut-être par nous pencher sur ces récits et plus précisément sur ce qu'ils nous racontent. Bon, ici on retrouve des laboratoires qui collaborent secrètement pour gagner toujours plus d'argent, tout ça au détriment de la santé publique. Là, il y a des vaccins qui provoqueraient l'autisme ou alors serviraient à stériliser la population. Ou encore des missions spatiales qui auraient été tournées dans des studios hollywoodiens. D'une théorie à l'autre, le scénario reste plus ou moins le même. On retrouve des individus puissants qui œuvrent dans l'ombre pour orienter des décisions politiques, économiques et sociales. Rien n'est dû au hasard, tout est sujet au doute et surtout, tout est lié. Mais si ces récits partagent les mêmes ingrédients, ils n'attaquent pas tous la science de la même manière.
Il y a des complots qui visent à nier l'existence même de ces théories scientifiques.
Cette voix, c'est celle de Jean-François Baer, sociologue et historien des sciences sociales. Il est professeur titulaire à la faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Lausanne. Ses travaux portent notamment sur la production des savoirs et des connaissances.
C'est le cas des terreplatistes, hein, par exemple, hein, qui nient le côté sphérique et globiste de la Terre, hein, c'est-à-dire qu'ils remettent en cause cette vérité pourtant établie historiquement, physiquement, scientifiquement. Donc il y a des complots qui fonctionnent sur une remise en question de la méthode scientifique, qu'on trouve trop complexe, trop difficile, trop abstraite, trop loin de nos préoccupations personnelles, trop loin de ce que l'on ressent. Hein, beaucoup des argumentations complotistes sont dites intuitionnistes. Hein, on ressent des choses et ça ne correspond pas à ce que nous dit la science. Et donc là, il y a une espèce de gap qui est difficile pour certaines personnes à passer. Et donc, ils essaient de revenir à une science qui serait en prise avec leurs propres sensations du monde. Et puis, il y a, comme dernier grand mode de fonctionnement, des complots qui jouent sur le discrédit, c'est-à-dire qu'ils vont attaquer directement soit des institutions scientifiques, soit des scientifiques qui sont membres d'institutions reconnues. Les grandes institutions qu'on attaque toujours, c'est la NASA pour la question de l'espace, le GIEC pour la question du réchauffement climatique, et puis même le CERN à Genève a fait l'objet ces dernières années d'attaques complotistes.
Ces attaques, elles peuvent déboucher sur des actes de violence très concrets, intimidation, vagues d'harcèlement, agressions physiques ou encore incendies de centres de vaccination. Des exemples, il y en a des tas et certains finissent même devant les tribunaux. L'Institut Pasteur, acteur majeur de la recherche sur les maladies infectieuses, a ainsi remporté un procès contre un complotiste qui l'accusait d'avoir artificiellement créé le virus du Covid-19. Aux États-Unis, le cas du docteur Anthony Fauci, qui est une figure centrale de la lutte contre la pandémie du coronavirus, est aussi très révélateur. Il a fait l'objet de menaces de mort répétées, au point de devoir être placé sous protection policière, protection qui lui a d'ailleurs été retirée par Donald Trump. Pour en arriver à ce stade, il ne suffit pas de trouver ces récits intrigants, comme on pourrait apprécier un bon roman policier. Les personnes qui y adhèrent doivent y croire profondément, être suffisamment convaincues pour défendre ces idées malgré les potentielles poursuites judiciaires. Et pour susciter cette conviction, ces récits doivent paraître crédibles et cohérents, et c'est là qu'interviennent les techniques rhétoriques, comme celle de l'effet millefeuille.
Ça, c'est une stratégie rhétorique argumentative qui consiste en fait effectivement à accumuler des données erratiques sans véritablement de lien entre elles. Mais vous créez une forme d'échafaudage d'argumentaire, d'argumentation. Et la personne qui reçoit ça a l'illusion que tout ça est extrêmement crédible en fait. Et beaucoup de groupes complotistes travaillent à développer cet effet millefeuille, en fait, c'est-à-dire nous noyer sous des informations, parce que ça demande tellement de temps que de déconstruire chacune de ces informations les unes après les autres que personne ne fait ça.
Les complotistes accumulent donc des dizaines et des dizaines d'arguments de toutes sortes jusqu'à étouffer l'esprit critique de celui ou celle qui les reçoivent. Et peu importe que les arguments soient réels et vérifiés, l'important est de créer un effet de masse. On l'a dit, ces arguments sont divers et variés, mais en les examinant de plus près, une tendance se démarque.
S'il y a quelque chose de commun à une grande partie de ces récits complotistes anti-scientifiques, c'est qu'une part parfois importante de leur argumentation est motivée par des positions religieuses. Chez les anti-vaccins, c'est très clair, une forme d'hygiénisme ou de naturalité du corps qui est fondée sur l'interprétation des textes bibliques. Chez les terre-platistes, c'est pareil, hein, la Bible est souvent citée comme livre ou manuel des terre-platistes, hein, parce qu'ils vont chercher dans la Bible des phrases, des versets qui vont dans le sens de l'idée qu'ils essaient de défendre, hein, que la Terre est plate et pas ronde. Chez les dénialistes du climat, c'est pareil. Il y a un fort retour actuellement de ce qu'on appelle le providentialisme. C'est une vieille idéologie religieuse qui consiste à dire que comme la Terre a été créée par Dieu, il ne peut rien nous arriver. C'est Dieu, en fait, qui a ça entre les mains. Donc, qui sommes-nous, nous, pauvres individus, pour être jugés responsables du réchauffement climatique, hein? Il y a bien quelque chose de plus grand qui nous préexiste et qui nous a créés. Et c'est Dieu, vers Dieu, qu'il faut se ranger.
En mettant ces deux grands types de récits côte à côte, on remarque des grandes thématiques récurrentes, la croyance en des forces cachées et malveillantes, la quête de sens ou encore le rejet du hasard. Dès la fin des années 40, le philosophe des sciences Karl Popper s'est intéressé à ce parallèle.
D'une certaine manière, pour Popper, plus la religion baisse, plus les récits complotistes augmentent. Donc pour lui, il y a une espèce de jeu de vase communicant entre cette baisse d'attractivité et d'efficacité de la parole religieuse et l'augmentation de ces récits complotistes qui vont récupérer en fait ces arguments religieux, qui vont les articuler à d'autres arguments, qui vont développer des récits, mais qui vont jouer à peu près le même rôle.
Ce rôle, c'est celui de structurer l'histoire, de donner du sens aux événements. Depuis toujours, l'être humain a besoin de s'appuyer sur des grands récits pour comprendre son époque. Cette fonction a longtemps été assumée par les religions, mais aussi par les idéologies de masse. Et puis, il faut bien le reconnaître, notre cerveau aime les explications simples. Les récits complotistes offrent souvent des réponses monocausales à des problèmes très complexes, car il est évidemment plus facile et confortable de désigner un ou une responsable plutôt que de faire face à la complexité du réel et d'assumer, comme dans le cas du réchauffement climatique, notre propre responsabilité. Et à cela s'ajoutent évidemment tous les biais cognitifs. Parmi eux, il y a notamment le biais de confirmation qui nous pousse à privilégier les informations qui confortent ce que nous pensons déjà et à repousser celles qui nous contredisent. En parcourant ces divers récits complotistes, il y a un élément qui attire mon attention. Je résume. Les complotistes œuvrent en communauté. Ils sont guidés par le doute. Ils recherchent la vérité. Ils essayent de trouver des preuves qui appuient leurs propos. Et tout cela pour donner des explications à des phénomènes qui leur échappent. Cette démarche, bien que simplifiée, ne vous dit-elle pas quelque chose ?
L'une des thèses est de considérer que ces récits anti-scientifiques sont des simulacres de la pratique scientifique en tant que telle. C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie normale, quand on est scientifique, on part d'hypothèses pour arriver à des conclusions. Dans un récit complotiste, ou pour les adhérents de ce type de récit complotiste, on part de la conclusion et on va en fait élaborer toute une argumentation et toute une théorisation à partir déjà du résultat. Et donc on va choisir des faits, on va en instrumentaliser d'autres, on va en souligner certains, on va en effacer d'autres, et donc on a vraiment une forme de retournement dans la pratique théorique classique.
Les plus virulents détracteurs de la science mettent ainsi un soin particulier à tenter de l'imiter. Les complotistes vont singer les institutions scientifiques, poussés par une forme de rivalité et certainement par une recherche de légitimité. Cela passe notamment par la création de pseudo-revues scientifiques, remplies d'articles qui reprennent le vocabulaire, la mise en forme et les références propres au monde académique, notes de bas de page, bibliographie, titres universitaires, tout y est, ou presque. De véritables études sont citées, mais souvent sorties de leur contexte, mal interprétées ou détournées pour servir une certaine conclusion. Ce mimétisme, on a pu l'observer de manière frappante durant la pandémie de Covid-19. Sur les réseaux sociaux circulaient par exemple de nombreuses interviews de pseudo-experts en blouse blanche et au parcours plus ou moins solide. Parmi les figures les plus médiatisées, on se rappelle du microbiologiste français Didier Raoul, une figure controversée et complètement marginale dans la communauté scientifique qui a été propulsée au devant de la scène par la complosphère.
S'il y a une particularité de ces récits complotistes, anti-scientifiques ou dénialistes, c'est qu'ils sont alter-scientifiques. C'est un terme, c'est un concept qu'on doit à un historien des sciences qui s'appelle Alexandre Moati, qui a travaillé sur ce qu'il appelle les alter-sciences. Et effectivement, c'est une caractéristique propre à ces complots. Alors, c'est quoi l'alter-science ? C'est militer pour transformer la science de l'intérieur, ce que j'ai dit sur le fait que la science, pour certains, est trop complexe, trop abstraite, trop théorique, trop mathématique. Il faut revenir à une science intuitive, sensationnaliste, en fait, d'une certaine manière. Ça, c'est une volonté de ces courants complotistes que de transformer, en fait, la méthode scientifique. Ça, c'est un premier mode d'alter-science. Et le deuxième mode est plus intéressant, plus efficace, c'est qu'en fait, pour attaquer la science, ils l'attaquent avec ses propres données, c'est-à-dire qu'ils instrumentalisent les découvertes scientifiques pour les retourner contre les sciences. Donc ça, c'est un mécanisme extrêmement intéressant, ce qui fait dire effectivement que celui qui adhère à une théorie du complot anti-scientifique est loin d'être un imbécile ou loin d'être un idiot, c'est quelqu'un qui sait parfaitement trouver des informations, qui sait parfaitement lire des textes scientifiques. Par contre, il va très mal les utiliser, très mal les organiser, très mal organiser en fait son mode de raisonnement.
Les complotistes sont donc loin d'être naïfs, au contraire, ils savent convaincre. Et les recherches en psychologie sociale le montrent, personne n'est totalement à l'abri. À un moment ou à un autre de sa vie, chacun et chacune peut être tenté d'adhérer plus ou moins fortement à une théorie du complot. même si, bien sûr, certains facteurs socioculturels ou politiques peuvent favoriser l'adhésion à certains récits. Et l'essor de ces discours n'est pas sans risque, car pour que la vie collective soit possible, il faut que l'on puisse s'appuyer sur un socle commun de faits considérés comme fiables. Et ces récits influencent aussi les directions que prennent nos sociétés.
Des adhérents à des formes complotistes, dénialistes, anti-scientifiques votent, et qu'en fait, ils prennent un certain nombre de décisions fondées sur les complots sur lesquels ils sont convaincus. Et donc là, il y a un souci démocratique majeur.
À travers leur argumentation, les complotistes tentent de décrédibiliser la science, de créer l'illusion d'un dissensus dans la communauté scientifique. Tout cela pour freiner la prise de décision politique. Et ça fonctionne.
The Paris Agreement handicaps the United States economy in order to win praise from the very foreign capitals and global activists that have long sought to gain wealth at our country's expense.
Le 1er juin 2017, Donald Trump annonçait le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. Pour justifier ce choix, comme on l'a entendu, il affirme que cet accord est en réalité conçu pour affaiblir l'économie américaine et permettre à d'autres puissances de s'enrichir aux dépens des États-Unis. Des arguments qui ne sont pas sans rappeler ceux des théories complotistes. La politique ouvertement climato-sceptique fait également des dégâts en Argentine. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Javier Milei a licencié un quart des effectifs du service météorologique national. Selon des anciens et anciennes employés, le simple fait d'évoquer le changement climatique était interdit au sein de l'institution. Et les conséquences de ces discours touchent aussi directement à notre santé. La hausse du scepticisme vaccinal a par exemple contribué au retour de maladies pourtant considérées comme maîtrisées. Sur le continent américain, les cas de rougeole sont repartis à la hausse ces dernières années, alors même que la vaccination avait permis de l'éliminer dans plusieurs pays. On trouve également des témoignages de personnes ayant interrompu un traitement médical sous les conseils d'influenceurs ou d'influenceuses complotistes. Et lorsque le déni concerne le changement climatique, les conséquences sont tout aussi concrètes. Selon un rapport de la revue médicale The Lancet, la chaleur tue plus de 500 000 personnes par année à travers le monde. S'il est relativement facile de tomber dans la spirale du complotisme, il est compliqué d'en sortir. Et ce, même si l'on présente des faits vérifiés aux complotistes.
Un argument rationnel ne suffit jamais en fait à transformer un individu. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans votre conviction à la théorie du complot. Il y a beaucoup d'émotions. Et l'émotion est un moteur extrêmement important, les psychologues vous le diraient. Il y a beaucoup de votre identité. Dire « en fait, non, je me suis trompé », ça va vous coûter beaucoup en termes d'identité personnelle. Et puis, votre place dans un groupe. Ce qui caractérise maintenant ces courants complotistes, c'est que vous n'êtes pas tout seul devant votre ordinateur, mais vous communiquez avec des gens qui ont les mêmes convictions et vous partagez en fait ces convictions. Et donc, dire « je me suis trompé, je vais me retirer », ça vous coûte psychologiquement, ça vous coûte identitairement et ça vous coûte socialement. C'est un prix très cher, en fait, pour voir des gens sortir, en fait, de ces rhétoriques complotistes.
À cela s'ajoute une dimension financière, vente de livres, de t-shirts, de formations ou de compléments alimentaires miracles. Comme dans les communautés sectaires, l'accès à une prétendue vérité cachée se transforme parfois en un produit que l'on vend à celles et ceux qui cherchent des réponses. Ils et elles sont ainsi entraînés dans un cercle vicieux dont il est difficile de s'extraire. Alors, que faire ? Les grandes institutions scientifiques se posent cette question depuis quelques années.
Beaucoup de ces institutions ont fait leur mea culpa en considérant qu'elles avaient délaissé, une forme de pédagogie de la méthode scientifique, quelque chose autour de la vulgarisation scientifique qui n'est pas passé, qui n'a fait qu'agrandir cette faille entre ce que l'on croit savoir de la pratique scientifique et ce qui se fait réellement. Et donc, je crois que maintenant, on remet l'accent sur l'idée qu'il faudrait accompagner en fait les découvertes scientifiques et les recherches scientifiques qui sont de plus en plus complexes par une forme de vulgarisation et de faire comprendre peut-être en premier, c'est un vrai enjeu, hein, comment on fait de la science, comment elle se pratique, comment on se met d'accord sur un ensemble d'hypothèses, de faits qui sont des vérités à partir desquelles on va pouvoir faire des choses. Ça, je crois que c'est maintenant très clair. Il faut investir dans cette question de la vulgarisation scientifique parce qu'elle est essentielle.
Car la science, c'est aussi ça, une boussole collective qui aide notre société à avancer et à relever les défis de demain. Et pour cela, le lien de confiance est primordial. Un lien précieux et de plus en plus fragile face à ce phénomène complexe qu'est le complotisme. Vous venez d'écouter un épisode de l'Uniscope, le podcast du magazine du campus de l'Université de Lausanne, réalisé par Joyce Joliat. Un grand merci à Jean-François Baer, professeur à la faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Lausanne, pour son expertise. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute.